Alors, bonjour à chacun et surtout à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Et pour ce matin, nous allons parler du jeûne. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez déjà entendu, nous allons prendre un temps de prière et de jeûne pour l'Église le samedi 10 novembre. Et donc, on a le temps de s'y préparer. Samedi 10 novembre à midi. Et puis, en effet, ceux qui veulent peuvent commencer le jeûne à ce moment-là et puis le prolonger jusque dimanche matin et le rompre au moment de la collation après le culte. Ensuite, libre à chacun de vivre le jeûne comme il veut. Certaines personnes ne peuvent pas jeûner une journée entière, c'est juste techniquement pas possible. Il est possible aussi de se priver de quelque chose. Alors, si on n'aime pas les côtes bêtes, il ne faut pas se priver de côtes bêtes pendant une semaine, on est bien d'accord. Quelque chose qui nous coûte un peu quand même. Mais on peut faire un jeûne partiel aussi, c'est tout à fait possible, de se priver de certaines choses pour une durée, qu'on puisse le faire librement selon ce que le Seigneur dépose sur notre cœur. Donc, on a eu à cœur, dans le cadre du conseil, de proposer ce temps de jeûne pour l'Église. Mais alors, pour quelles raisons jeûner? Je peux en donner quelques exemples ici. Rechercher, par exemple, la direction du Seigneur pour un nouveau projet de vie, ou bien un désir de se rapprocher de Dieu et prendre un temps pour, entre guillemets, se reconsacrer au Seigneur. On peut jeûner quand on traverse une lutte particulière contre les œuvres des ténèbres. On peut jeûner pour des besoins personnels. Et on peut jeûner aussi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans l'Église et dans nos vies. Et c'est sur ce dernier point-là, plus précisément, que j'aimerais partager avec vous. Jeûner aussi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans l'Église et inévitablement aussi dans nos vies. Et j'ai croisé deux versets il y a quelque temps en arrière que j'avais partagé aussi le mercredi, il y a 10 jours de cela, dans le cadre de la rencontre de prière du mercredi soir. Et ces deux versets, je les reprends comme ça. On n'était pas nombreux ce mercredi-là, comme ça on peut continuer après ensuite le message dans la ligne de ce que j'avais partagé ce mercredi-là. Donc c'était dans Joël 2. Les versets 28 et 29, ce sont des versets qui sont bien connus. Joël 2, 28 et 29. Joël 2, 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et comme je l'avais partagé mercredi dernier, le contexte de cette prophétie en Juda, c'était des temps difficiles que le pays vivait. Et dans ces temps difficiles, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et Dieu donnait ici une promesse merveilleuse pour que son peuple puisse continuer à avancer, même dans les circonstances difficiles. Promesse de ce que son esprit se répandra sur toute chair. Promesse, en fait, qui s'est accomplie. J'avais posé la question aussi le mercredi soir. Qui s'est accomplie? À quel moment? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi soir, vous avez une idée. Quand est-ce que cette promesse du prophète Joël s'est accomplie? Alors là, les pentecôtistes, réveillez-vous. Le jour de la Pentecôte, en effet, parce que si nous lisons Acte 2, les versets 17 et 18, Acte 2. Dans les derniers jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël bien après, hein, à peu près genre neuf siècles après, la promesse s'accomplit. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, même si ça prend du temps, hein, mais il l'a accompli. Et cette promesse-là, en fait, elle est pour nous aussi aujourd'hui. Et il est bon de se rappeler que le début de l'histoire de l'Église, en fait, a commencé ce jour-là, ce jour où cette promesse s'est accomplie, où l'Esprit-Saint était descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Et les disciples ont dû attendre, parce qu'on le sait, hein, Jésus, après sa mort et sa résurrection, après sa résurrection, a vécu encore 40 jours sur cette terre. Il est apparu à plusieurs endroits. Et puis, après, il est monté au ciel, et 10 jours plus tard, est venue la Pentecôte. Donc, il y a eu un temps d'attente pour que s'accomplisse la Pentecôte. Les choses ne sont pas venues comme ça tout de suite le jour de la résurrection. Il y a eu un temps d'attente. Et dans ce temps d'attente, et tout particulièrement après l'Ascension, je pense que les disciples ont prié et jeûné. Ils ont eu différentes activités, hein, c'est clair. Mais ils ont pris aussi, tout particulièrement, du temps dans la prière et dans le jeûne. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous pouvons voir une recommandation du Seigneur dans Matthieu 9, liée à son ascension d'ailleurs. Matthieu 9, 14. Matthieu 9. 14. Ouais, ce matin, je prends pas mal de références bibliques. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de suivre. Si vous voulez suivre, vous suivez avec vos bibles, pas de souci. C'est comme vous désirez. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Hein? Au moment où l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Et Jésus a été enlevé le 40e jour, donc on peut s'imaginer, sans faire des grandes réflexions, qu'en effet, durant ces 10 jours, les disciples ont jeûné et ils ont prié. Et c'est, je trouve quand même intéressant de se dire que le jour de la Pentecôte, c'est vécu aussi au travers de la prière des disciples. Dieu avait besoin de la prière des disciples pour pouvoir se manifester le jour de la Pentecôte, pour que cette prophétie, c'est fou hein, de se dire cette prophétie qui avait été écrite 9 siècles avant, pour que cette prophétie puisse se réaliser, les disciples ont dû prier. Et non seulement ils ont dû prier, mais moi je suis certain, ils ont jeûné aussi. Et je pense que pour nous aussi, c'est une clé quelque part, si on veut vivre des cultes bénis, alors pensons dans nos prières à l'Église, pensons au culte, pensons à demander à ce que l'onction du Saint-Esprit vienne, pensons à demander à ce que le Seigneur puisse remplir chacune de nos vies de sa présence, et pensons peut-être aussi à jeûner. Je ne dis pas d'en faire une loi, hein, qu'on doit jeûner chaque fois avant de venir le dimanche au culte, mais on peut penser à ceci. Si en effet on veut vivre aussi des temps de renouvellement dans l'Église, alors, jeûnons et prions, ça ne va pas venir comme ça. Ce n'est pas venu comme ça, ce n'est pas tombé, entre guillemets, comme ça du ciel, sans que les disciples aient eu leur part aussi à faire. Et c'est un mystère, hein? Dieu avait promis. Mais pour que la promesse de Dieu se réalise, les disciples, ils ont eu leur part à faire, ils ont dû jeûner et ils ont dû prier. Et le début de l'Église a pu démarrer. Et le début de l'Église est étroitement lié quelque part au baptême du Saint-Esprit, à ce vent qui est venu du ciel, qui a visité ses disciples qui étaient en prière. Et il est bon de se le rappeler aussi pour notre Église, pour la marche de notre Église. Si on veut des temps bénis, si on recherche ces temps bénis, alors il n'y a pas, je pense, 15 000 chemins, mais la prière est le jeûne. Prendre du temps devant la face du Seigneur, afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous renouvelle, afin qu'il nous bénisse richement. Hébreux 6, les versets 1 et 2. Nous parle du baptême. Et vous allez le voir, en fait, pas d'un seul baptême, il nous est parlé de plusieurs baptêmes. Et aussi, je pense, du baptême, justement, du Saint-Esprit. Hébreux 6, versets 1 et 2. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Je rajoute le verset 3. L'imposition des mains. Pourquoi? Pour recevoir le Saint-Esprit. Hein, on verra dans la suite du message un exemple où Paul va imposer les mains et où le Saint-Esprit est venu sur les disciples. De la doctrine des baptêmes. Doctrine, hein, c'est quand même intéressant de voir que ce terme est présent dans la Bible. Hein, pour ceux qui disent « Oh, moi, la doctrine, non, je n'ai pas besoin de l'étudier. Hein. » Non, c'est important la doctrine, de comprendre les fondements de la foi chrétienne, d'y réfléchir. Et comment le faire? Eh bien, en approfondissant simplement nos connaissances aussi de la parole du Seigneur. De la doctrine des baptêmes. Et là, ce n'est pas une erreur de traduction, hein, je vous rassure, c'est bien marqué « des baptêmes ». Il y a plusieurs baptêmes, mais nous parlons ici de quel baptême? Alors, on peut penser bien sûr au baptême d'eau, hein, en signe de repentance, en signe de mort à soi-même, en signe d'avoir remis sa vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On peut penser encore à un autre baptême qui se trouve dans Romains 6. C'est l'apôtre Paul donc qui nous en parle, Romains 6. Je vais lire les versets 1 à 4. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il nous est parlé ici du baptême, hein, bien sûr d'eau, le baptême que nous avons vécu en Jésus-Christ, et il nous est expliqué ce baptême, le baptême en sa mort. Nous avons été baptisés en la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une indication aussi d'un baptême. Et en effet, on ne peut pas vivre en Jésus si on n'a pas été baptisé en sa mort. Quelque part, quand Jésus est monté à la croix du calvaire et a dû agoniser et mourir 6 heures après, ben quelque part, nous aussi, notre vieille nature mourait avec lui en avance. Hein? Pas comme un sacrifice, mais comme une œuvre de dépouillement. Et c'est bien dans cette mort-là que nous avons été ensevelis. Ce n'est pas dans une autre mort, ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Et pour pouvoir vivre cette dimension de notre vie en Christ, nous devons bel et bien mourir à soi-même. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, et je vous en reparle un petit peu ce matin. Et je trouvais intéressant aussi de se dire, mais que le baptême du Saint-Esprit est lié aussi au baptême à la mort à nous-mêmes. Si on veut vivre dans la communion du Seigneur, plus prochement, dans les dons du Saint-Esprit, dans ce que le Seigneur veut déverser dans son Église, alors le premier point, c'est bien d'être baptisé dans la mort du Seigneur. Hein? Parce que parfois on veut les bénédictions, parfois on veut les miracles, parfois on veut les prophéties, mais parfois, on veut malheureusement pas la mort à nous-mêmes. S'il n'y a pas de mort à nous-mêmes, alors comment le Saint-Esprit pourrait véritablement se manifester et diriger nos vies, conduire nos existences à la gloire du Père? C'est bien difficile. Alors, bon, je pense que par rapport à cette mort, ce baptême de la mort, je pense que des fois, malheureusement, notre vieille nature, hein, elle revient, elle toc-toc à la porte et tout. On n'est pas tout le temps mort à 100%. Ce serait, je l'ai déjà dit, hein, aussi quand on avait le temps de baptême, hein, si ce vieil homme pouvait rester là au fond puis pas ressortir, ce serait merveilleux. Malheureusement, des fois, hop, il ressort de l'eau un moment, mais il était vaincu à la croix de Golgotha. Et c'est dans cette victoire-là que nous pouvons marcher. Et que si à un moment donné, le vieil homme veut ressurgir, nous savons déjà que notre vie est dans le Seigneur Jésus-Christ et que nous pouvons avoir aussi la victoire contre cette vieille nature qui est là, qui un jour, on va la quitter définitivement le jour de notre mort. Hein. Voilà, cette fois, la vieille nature, on va la laisser ici-bas, elle sera plus attachée à nos baskets. Mais aujourd'hui déjà, nous ne voulons pas demeurer dans le péché, afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et oui, c'est bien dans la mort du Seigneur Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Et c'est dans cette mort-là que nous devons demeurer et demeurer fermes. C'est notre combat, quelque part. Mais c'est un combat que le Seigneur a déjà remporté à la croix de Golgotha, et c'est pour cela qu'il veut nous donner aussi la victoire. Alors que cette mort puisse se manifester, cette mort à nous-mêmes, qu'elle puisse se manifester parmi nous, que ce soit dans nos attitudes, que ce soit aussi dans la recherche de direction qu'on peut prendre pour nos vies, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actes, que la mort du Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester en nous, afin que sa résurrection puisse aussi être donnée en chacun d'entre nous. Amen. Alors, il nous est parlé de la doctrine des baptêmes. Baptême, donc, un signe de repentance, un signe d'appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Baptême au nom de Jésus-Christ. Baptême dans la mort du Seigneur, hein, on pourrait dire que ça, c'est un baptême. Et puis, encore un baptême, le baptême dans le Saint-Esprit. Et moi, j'ai pas une grande doctrine là-dessus, je suis pas un grand docteur là-dessus, hein, je sais qu'il y a différentes tendances, je vais pas forcément vous éclairer plus que ça aujourd'hui, mais je crois quand même que, en effet, le Saint-Esprit peut se manifester d'une manière particulière, et bien sûr que au moment où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été régénérés, dès ce moment-là, l'Esprit Saint est venu en nous. Et nous pouvons vivre en nouveauté de vie, hein, c'est ce que dit ici l'apôtre à la fin du verset 4. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Et si nous pouvons marcher en nouveauté de vie, c'est bien parce que le Saint-Esprit a commencé son œuvre en chacun d'entre nous le jour où nous avons donné notre âme, notre cœur au Seigneur. Alors, si l'Esprit Saint est là dès le moment de notre nouvelle naissance, pourquoi faut-il peut-être rechercher quelque chose aussi de, je sais pas, je pourrais dire supplémentaire? Alors, cette question-là, quelque part, des disciples se sont posés ce même genre de question, et nous le voyons dans Actes 19, les versets 1 à 7. Ici, c'est l'apôtre Paul qui va prier pour des disciples et leur imposer ses mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc baptisé ? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ en tout 12 hommes. 12 hommes qui reçoivent le Saint-Esprit suite à l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et à ce moment-là, c'est que quelque part, ils avaient déjà accepté le Seigneur. Hein? Peut-être avant, peut-être juste au moment où Paul a pris le temps de les enseigner sur ce qu'était le baptême en Jésus-Christ. Peut-être c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont compris puis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Peut-être qu'il a dit que c'était des disciples. Alors, c'était peut-être ils avaient déjà compris l'œuvre de Jésus. Parce que ce texte se passe, cette histoire ici qui nous est racontée en Acte 19, se passe à peu près, plus ou moins, on estime 25 ans après la Pentecôte. Hein? Donc, on est déjà un temps bien après la Pentecôte. Et ici, il se vit comme une Pentecôte. Le Saint-Esprit est à nouveau déversé. Donc, les disciples, au moment où ils se sont fait baptiser, c'est sûr qu'ils étaient déjà régénérés par l'Esprit Saint. On ne va pas baptiser quelqu'un dans l'eau s'il n'est pas passé par la nouvelle naissance, vous êtes d'accord? Et au moment où l'apôtre Paul impose les mains, alors voilà que le Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière. Et comme au début de la Pentecôte, 25 ans avant, voici qu'ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. C'est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit qui se réalise tout à nouveau. Et comme Jean le Baptiste l'avait annoncé, nous le voyons en Luc 3. Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. C'est Jean-Baptiste qui dit: il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est la promesse de la Pentecôte. C'est que Jésus, et c'est bien Jésus qui baptise du Saint-Esprit, et c'est bien Jésus qui baptise de feu. Dans un texte parallèle, nous pouvons lire dans Jean 1, l'évangile de Jean 1, verset 33. Jean 1, 33. Je lis la deuxième partie du verset. Je ne suis pas sur le bon chapitre. Jean 1, verset 33. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, donc c'est Jean-Baptiste qui parle, hein, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est une promesse. Et cette promesse, pour moi, elle s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Et ici, le verbe « celui qui baptise hein, »,« baptise », c'est un participe présent. Hein, c'est un verbe qui est au présent et c'est un participe présent. Et c'est difficile de traduire en français parce qu'on pourrait dire quelque chose du genre « c'est celui-ci le baptisant du Saint-Esprit ». Pourquoi c'est au participe présent? Ben, en fait, voilà, hein, moi je ne suis pas un grand spécialiste du grec, mais il y a des fois des tournures de phrases, on a de la peine à les rendre en français, ça fait un français franchement bizarre. Hein. Mais ça veut dire, un participe présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, c'est quelque chose qui se vit, qui s'est vécu, qui se vit, et voilà, c'est une promesse encore pour nous aujourd'hui, c'est une promesse encore pour l'Église aujourd'hui, que Jésus, c'est bien le baptisant dans l'Esprit. C'est bien celui qui fait cette œuvre encore dans l'Église aujourd'hui, celui qui veut remplir son Église de sa présence et de ses dons. Regardons encore un texte en 1 Corinthiens 12 qui nous parle des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11 où l'apôtre Paul parle des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est en effet par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit, qu'il y a diversité des dons. Et c'est par ce même Esprit que le Seigneur peut, à quelqu'un, donner une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, le don de guérison. Et il est bien parlé de don de guérison, ici, pas de ministère, hein, je fais une petite parenthèse. Hein, les gens qui disent « j'ai un ministère de guérison », c'est pas forcément super biblique, hein. Dieu peut utiliser chacun d'entre nous pour guérir son prochain. Amen. Hein. Selon la foi que le Seigneur met dans nos cœurs, Dieu peut agir. Dieu peut agir. Il n'y a pas besoin d'un ministère de guérison de courir après un ministère de guérison pour avoir sa guérison. Dieu peut agir. Dieu va distribuer les dons selon son bon vouloir. Il connaît nos besoins. Et s'il désire nous guérir, il n'a pas besoin d'un super ministère de guérison pour nous guérir. Amen. Hein? Ça peut passer même au travers de la prière d'un enfant, puis voilà, la guérison t'est donnée. Un autre de recevoir le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, tout cela selon un seul esprit, encore à un autre, le don d'interprétation des langues. Dieu distribue ses dons comme il le désire. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps vivre dans chacun des dons qui sont énumérés ici, mais à un moment donné ou à un autre, le Seigneur peut manifester un don ou un autre en nous. Amen. Hein? Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste dans les dons charismatiques pour qu'un de ces dons-là se manifeste en nous. Il suffit de croire et de se rappeler que celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Et que pour cela, comme je l'ai dit auparavant, il faut être mort à soi-même, hein, passer par ce baptême de la mort dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour que véritablement le Saint-Esprit nous baptise et nous remplisse et manifeste ses dons au milieu de son Église. Et quand je vous parle du baptême du Saint-Esprit, je ne crois pas que cette Église, comme ça, tout à coup, du jour au lendemain, va se transformer en une cour des miracles, hein. Que tous les dimanches, voilà, que les jambes vont se rallonger, que les nez vont devenir plus petits, que les oreilles vont se coller, celles qui étaient décollées, que ceux qui étaient dégarnis, hein, comme moi, pauvre Seigneur, aie pitié de ton serviteur, hein. Il y en a d'autres qui aimeraient retrouver un front plus chevelu. Non, je vous parle pas de ça. Mais Dieu, s'il veut, si dans sa bonté et sa grâce veut nous guérir, il nous guérira. Et parfois, on a un autre chemin à prendre, mais qui est aussi le chemin de la foi. Paul a prié à plusieurs reprises, vous connaissez hein, ce passage, pour qu'une épine qu'il avait dans le pied lui soit ressortie. Et Dieu va lui répondre, « Ma grâce te suffit », c'est dans 2 Corinthiens 12, verset 9, mais je lis juste comme ça, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » C'est étonnant, hein? Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. La puissance de Dieu peut bien sûr se manifester au travers des miracles et des guérisons, mais la puissance de Dieu peut également se manifester dans la faiblesse, dans la maladie, dans l'acceptation de ce chemin qui est peut-être difficile, mais que Dieu sera avec toi et que sa puissance va se manifester dans ta situation de souffrance, dans ta situation d'handicap. Oui, je crois, hein? C'est la Bible qui le dit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Peut-être tu n'auras pas la guérison, mais tu auras la foi et le courage de continuer et de te battre et de persévérer sur le chemin du Seigneur pour la gloire de ton Dieu. Amen. Alors j'arrive au terme de ce message et je trouvais intéressant de lier le jeûne à la recherche de ce baptême, de ce renouvellement du Saint-Esprit aussi pour notre Église, de se rappeler que oui, c'est Jésus qui baptise encore, c'est le baptisant, hein, comme dit le grec, c'est le baptisant, c'est celui qui baptise encore aujourd'hui, et il désire le faire. Et cette promesse, elle est pour tout le monde, hein, même pour les serviteurs et les servantes, pour les jeunes, pour les vieillards. Il n'y a personne qui est mis de côté par rapport à ça. Hein. Dans la liste, dans l'énoncé de Joël, il n'y a personne qui est mis de côté. Non, toi, tu es trop jeune pour comprendre ça. Hein. Les enfants peuvent être baptisés du Saint-Esprit, hein, même s'ils ne sont pas passés par le baptême d'eau. Ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit déjà aujourd'hui. Laissons-nous surprendre. Moi, j'ai connu cela en étant enfant. Hein, j'ai connu une visitation du Saint-Esprit. Alors, quand on est enfant, on ne se pose pas 15 000 questions de doctrine. Ah oui, mais est-ce que si, ceci et cela et cela? Non, un jour, on a prié pour moi. Et voilà, j'ai été visité du Seigneur. Et j'ai commencé à prier en langue. Voilà, c'est venu comme ça. Je n'ai pas cherché. Hein. C'est sorti comme ça. Hein. Pouf. Et puis, c'est vrai qu'enfant, on ne se pose pas des grandes questions doctrinales. D'ailleurs, j'y ai peut-être pas répondu aujourd'hui. Ça date, ce baptême, il date de bientôt 40 ans, un peu moins, tout passé 35 ans. J'y ai pas forcément répondu à la doctrine par rapport à ça. Mais, voilà, je crois que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. C'est une promesse. Et que Dieu veut manifester ses dons au milieu de nous pour l'édification du corps du Christ et pour l'avancement de son royaume. Amen.